قالوا لا تمشيو مشينا مانيفيستيو برك يقولوا كيما يقولوا تحيه الجزائر يعني على البلاد هذا المكان.
Les Algériens, ils ont dit, écoutez, il faut qu'on se regroupe pour aller manifester pour l'indépendance de l'Algérie.
C'est la première fois que vous sortiez du bidonville.
Oui, c'est tout.
Donc c'était la première sortie, c'était par rapport à cette manifestation.
Oui, c'est tout.
Monsieur Matalla Jelloul, est-ce que vous vous rappelez du 17 octobre 1961?
Ah oui, j'étais là-dedans, octobre. Je travaillais à les Valois. Je travaillais à la deux chevaux, là.
Nous en provenions, et nous avons convoqué les grands responsables, jusqu'au groupe, et de là, ça arrête, parce que les grands responsables, vous le voyez pas. Hein? Alors, nous en provenions, comme quoi, tout à l'heure, s'il y a des manifestations, on part à Paris. Alors, on a préparé tout, on a commencé à dire à tout le monde, à tous les Algériens, tout à l'heure, il faut être prêt. Hommes et femmes, tout le monde. On était tout groupés. Nous, on a fait le tour dans les baraquements. S'il y a quelqu'un, tout le monde, personne qui reste. Tout le monde, ils étaient au courant. Hommes et femmes, tout le monde, ils étaient au courant. Tout le monde, ils étaient présents.
Il fallait y aller. Parce que c'était noyauté par cellule. Alors, chaque cellule a son groupe. On était en guerre. C'est comme des militaires. Il faut pas... Quand on vous donne un ordre, il faut y aller. J'étais travaillé, j'ai fini ma journée à 5 heures. Je suis venu à la maison, j'ai pris ma femme et les enfants, je suis parti.
On est parti, on a pris le boulevard Charles de Gaulle. Et nous, quand on est arrivé, le pont, il était coupé.
Quel pont?
De Naillé. Il était coupé par la Serras et le Harki.
Je me rappelle toujours. Oui. C'est vers 19h30, 20h. Et on marchait, moi j'arrive, c'était le pont de Neuilly, c'était plein de monde. Je suis arrivé juste au milieu du pont, et ça commençait à tirer.
Ça a tiré?
Ah oui, ça a tiré à un mitrailleuse ou la mitraillette, je sais pas, mais ça a tiré. Puis les gens, ils ont commencé à se sauver, il y en a qui sont tombés dans la bousculade, il y en a qui... Peut-être il y en a qui ont été touchés... Mais j'ai pas vu, moi, des blessés avec des balles ou quelque chose, mais les gens, ils étaient par terre. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis il a commencé à pleuvoir, et on a pris une douche aussi. Oui, moi, j'avais pas de chaussures, j'ai perdu mes chaussures. Ouais. Parce que, un qui marche derrière, moi, sur les pieds, vous perdez les chaussures.
Vous avez longé les quais avec votre femme et vos enfants?
Oui, oui. Avec ma femme et mes enfants. Moi, j'avais les deux petits, 2-3 ans, j'en avais un que je portais devant lui. Et puis, ma fille, là, qui est là, ma fille, elle marchait. Souria. Elle avait 3 ans.
Bonjour. Votre père, là, me parle de octobre 61,
oui.
Le 17.
Oui.
Et vous, à l'époque, vous aviez 3 ans.
3 ans, oui, c'est ça. Mes parents nous avaient cachés dans un endroit, on entendait la police, donc on voyait les gens courir dans tous les sens et tout ça, ouais.
Un des bébés d'Arbou, Castro, où on a scellé Mahmet ou Koulahou, Filassin.
Il y avait mon père, on l'a tapé dessus, on l'a bastonné, donc les amis qui étaient autour de lui, ils les ont attrapés, les ont jetés dans la Seine.
Après la semaine, on a scellé. حوصنا ومن بعد دخلوا في السبيطار في الكومه اللي معاه مشاو هزوا السبيطار بعد قال لنا ما تخموش رانا هنا راه في السبيطار.
Mon père m'en attendait après mon père, n'avait pas de nouvelles. On a appris qu'il était à l'hôpital dans le coma. Il a dit, bon, bah, quand il s'est réveillé du coma, il a écrit une lettre, comme quoi il a dit qu'il fallait pas vous inquiéter, je suis vivant et je suis à l'hôpital. Bon, on nous a dit il y a une manifestation, donc on s'est pas douté. On a dit bon, on va manifester, mais on savait pas ce qu'il allait se passer.
On
savait pas qu'on allait risquer de mourir, donc on est parti tranquillement, quoi, sereinement. Il y a eu une rafle, la police commençait à faire des recherches, donc les gens qui trouvaient, bon, ils les tapaient, puis ils les jetaient dans la Seine.
وما قدرتش نجري.
نونتوندي تيري دي بال جي بانيكي.
جريت ومن بعد عييت حتى مشينا حقينا الدار.
جي كورو دونك جي ايتي fatiguée, épuisée, je me suis arrêtée puis je me suis cachée dans un coin.
Tout le monde il criait, tout le monde il pleurait, tout le monde les enfants les couraient, tout le monde il tombait par terre. الناس تاعهم مرضوا بزاف البلاد والكبار بالخلع تاع اللي قتلوا الناس وكل.
Donc après ça on a été choqués, les adultes, les enfants, on a été tous terrorisés, choqués.
Mais ça a fait du bruit quand même. C'est la journée de 61 qui a ramené l'indépendance. La manifestation qui a fait bouger beaucoup de choses ici. Et après, le couvre-feu a été annulé et tout ça. Puis 6 ou 7 mois après, c'était l'indépendance. Et voilà.
Le temps qu'il a fallu, les efforts, les souffrances, la foi... Les combats qu'il a fallu pour que 42 ans après ce que vous venez d'entendre vous parle aux Français. Le 17 octobre 61, la journée portée disparue a bien failli disparaître. Il a fallu des efforts de mémoire, des efforts de militants, des efforts d'hommes et de femmes justes, peu nombreux, très peu nombreux, pour qu'enfin cette journée soit aujourd'hui célébrée. Et là actuellement, dans quelques instants, à 17h30 à Nanterre, devant la préfecture, place des droits de l'homme, une plaque va être apposée, semblable à celle apposée sur le pont Saint-Michel à Paris. Et cette plaque portera le texte suivant: à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. Algériens, on est en 2003, c'est l'année de l'Algérie, mais la plaque ne dira pas qui a tué ceux qui sont morts lors de cette soirée du 17 octobre 1961. Ceux qui ont tué, et on ne mettra pas sur la plaque, ça a fait l'objet d'une polémique vive, ceux qui ont tué, eh bien c'est la police de Maurice Papon. Maurice Papon, préfet de police, avait imposé un couvre-feu aux Français musulmans d'Algérie, comme on les appelait. Et en réponse, le FLN a organisé cette manifestation en mobilisant toute la population française, des Français musulmans d'Algérie, comme on disait, et notamment ceux très nombreux qui vivaient ou survivaient dans le bidonville de Nanterre où nous étions, dans la mémoire duquel nous étions il y a quelques jours, souvenez-vous, avec Adila Tebi. Ça a été un soir et une nuit de massacre, on peut parler de pogrom. Peut-on parler de nuit cristal? Peut-être que la comparaison, là, cette fois-ci, s'impose. Combien de victimes? 1, 2, selon les chiffres officiels, toujours officiels, 100, 200, selon le travail des historiens, on ne sait toujours pas. Inacceptable, mais secondaire, avait dit le général de Gaulle, les noyés par balles, les NPB, ont réussi à faire parler le fleuve, à ce que le fleuve, la Seine, ne se taise pas. Et aujourd'hui, 42 ans après, voici une mémoire vive.
Monsieur Matalla, Jelloul, est-ce que vous vous rappelez du 17 octobre 1961?
Ah oui, j'étais là-dedans, le 17 octobre. Je travaillais dans les Valois. Je travaillais à la Deux Chevaux, là. Puis le soir, je suis sorti de mon travail, j'ai fini ma journée, avec ma gamelle, mon sac. D'un coup, je vois la police partout, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a la manifestation, mais c'est pas possible. J'ai sorti, puis je suis passé par la première parage. C'est des polices français, enfin, il y a des harkis aussi là-dedans. Plus loin, il y a un espèce de harki, il m'appelle, il me dit, hey, où est-ce que vous allez, vous, comme ça, là? Vous se prenez comme un français? Parce que j'étais un peu jeune, rouge, blond, alors. J'ai dit, non, je suis algérien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez rien fait? Allez, viens. Il me prend directement monté dans le car. J'ai dit, pourquoi, là, j'ai rien fait. Puis après, j'ai compris. Comme je suis monté dans le car, je trouvais beaucoup des Algériens. Et puis, il y en a même des Tunisiens, enfin, aussi, tout qui voit en arabe, il faut qu'ils montent, alors. Donc, après, ils sont triés, les Marocains, les Tunisiens, ils sont partis chez eux, puis nous, on a au palais des sports.
Au palais des sports?
Au palais des sports. Comme j'arrivais là-bas, je vois, il y a deux murs, par exemple, de la police. Les cars, on descend là, il y a une vingtaine de police, à peu près, hein, une vingtaine à droite, et une vingtaine à gauche, avec des matraques. Alors j'ai dit, ça y est, c'est la mort alors, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt qu'on descend dans le cas, il commence la première à taper, l'autre jusqu'à où il tombe. Puis il y a deux costauds là, ils ramassent ils traînent les gens qui sont tombés, hop, ils le mettent dans un, comme des sacs de je sais pas quoi. Et moi, il m'a tapé, j'étais costaud quand même. Je signe un peu quoi, mais ça va. Il y a des morts, c'est pas parce qu'ils sont d'ici 600, peut-être qu'il y en a plus. Parce que comme je vois avec mes yeux, les gens qui sont tombés, il y en a qui n'y a pas d'oreille, l'autre il n'y a pas le nez, l'autre ses dents qui traînent, l'autre sa ventre, l'autre il est cassé le bras. C'est vrai, monsieur, c'est la vérité ce que je dis là. J'ai vu avec mes yeux là. Puis j'ai dit, si j'allais, ils vivraient pas longtemps, c'est pas possible. Il n'y a pas de médecin ni rien. Ils sont là, puis la police est en train de marcher dessus, alors ben hein, on a vraiment. Je me rappelle bien de tout ça alors. Oh là là là. Mais plus loin, je vois des montagnes alors. Des montagnes et des porte-monnaies. De l'argent, de panier. Oui, il faut vider tout avant de rentrer dans la salle. Des montagnes, il y a des montagnes, des clés, des porte-monnaies, même les nonnettes qui sont faites par le médecin, par exemple. Il faut qu'ils trachent ça et tout ça. Là. Ah, c'est vraiment, c'est bien déjà qu'ils voient pas clair alors. Tellement parce qu'ils sont habitués avec des nonnettes. J'ai envie de pleurer. Tellement que j'y vois déjà, j'étais jeune. Moi, j'en ai 22 ans, je crois. 2 ans, 23 ans. Mais je sais qu'est-ce qu'ils ont fait alors. Incroyable. Puis moi j'ai peur, j'ai dit ça y est, hein, je crois qu'on passe tous pareil. Alors, bon, on arrive là-bas, on reste 3 jours, on peut pas aller aux toilettes, parce qu'on a peur. Personne qui va aux toilettes, tu reviens jamais. Donc il y a un trick. On n'a pas mangé 3 jours. Alors la 4e jour, tout à coup, je ne sais pas, il y a l'armée qui vient. Et avec des grosses marmettes, là, ils sont fait, je me rappelle bien, c'est des petits pois cassés, vous voyez? Mais je sais pas qu'ils se sont fait dedans. Aussitôt que, parce qu'on a faim, on a mangé, aussitôt que ça arrive à l'estomac, ça y est. On commence à faire le besoin sur nous, tellement qu'on a mal, on a mal. Ah, ça, c'est, ils sont décidés de le faire demain, le jour-là, alors. Je sais pas si Maurice Papon, ou je ne sais pas ce monsieur-là s'il a donné l'ordre de faire pour la police, mais il y a des policiers, il y a des harkis qui cherchent à tuer, c'est tout. Ils ne cherchent pas de... Hein, ils cherchent à tuer, c'est tout.
Et pourquoi vous êtes en France maintenant? Pendant des années, vous êtes battu pour...
Oui, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi que nous sommes là, surtout tous les Algériens qui sont leurs enfants ici, on est coupés en deux. Même on est ici, nos cœurs, il est là-bas. Soit la nuit, soit le jour, c'est l'Algérie. C'est tout ce qu'on en a. Si on part là-bas, c'est nos enfants. Les enfants ne peuvent pas partir. Il n'y a pas ce qu'il faut, on peut vous dire la vérité, on n'en a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas de travail, et malheureusement, ils sont plus de rester. Et bien, ils sont nés ici. Alors, on est coupés en deux. Dès qu'on repart en Algérie, de rester un mois ou 2 mois, et ça commence à venir vraiment dur, parce que vous pensez à vos enfants, qui sont en France, qu'est-ce qu'ils arrivent, même chacun à sa maison. Mais vous êtes toujours, vous savez ce que c'est les parents.
Alors aujourd'hui, en toute tranquillité, chez vous, vous avez le droit de chanter l'hymne national maintenant.
Maintenant, alhamdoulilah, nous sommes très, 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 très heureux d'être libres. Et notre pays, notre drapeau, on est vierge. Très vierge et on est très heureux ce qu'on a fait.
Merci à tous, merci à Madame Telaoui, à sa fille Soraya, à Monsieur Matala Djelloul. à Monsieur Ahmed Soudani, à Monsieur Telaoui, à Monsieur Anad Septi pour cette évocation, ses souvenirs, cette confiance autour de la journée portée disparue, celle du 17 octobre 1961. Je vous signale un joli livre qui sort. Joli, le mot n'est pas juste. C'est un livre très fort qui s'appelle « La scène était rouge » de Leïla Sebar. C'est aux éditions Thierry Magnier. Et Leïla Sebar, pour commencer, dédie son livre à ceux du comité Maurice Audin, à Didier Daninx, à Jean-Luc Enaudi, à Eli Kagan, à Nasser Ketan, à Mehdi Lalaoui, à François Maspero, à Georges Mattei, à Jacques Panigel et à Paulette Péju et à Anne Tristan, c'est-à-dire... Il y en a d'autres, mais pas beaucoup d'autres, qui ont porté jusqu'ici cette mémoire de façon à ce que, eh bien, ces Algériens, ces Français musulmans d'Algérie d'hier, se la réapproprient. Voilà, aujourd'hui on continue le voyage le long du mur, au pied du mur, Israël au pied du mur. On va avoir un entretien un peu en longueur avec Ilan Halevi de l'autorité palestinienne. Mais auparavant, évidemment, vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je voudrais dire que j'ai connu la guerre, même si j'étais très jeune, avec deux frères déportés à Buchenwald et une famille et une belle famille qui auraient pu être taxées de terroristes. J'ai donc toujours été du côté des opprimés et des occupés, donc du côté des Palestiniens. Ce qui me donne le droit aujourd'hui de rendre hommage à ces Palestiniens, à ces Israéliens courageux, ces pilotes qui refusent de bombarder des civils et ces femmes qui vont à 7h du matin, même si c'est symbolique, aider les Palestiniens. Voilà, bravo pour vos émissions et merci à vous. Au revoir.
Daniel, j'ai trouvé très drôle ta remarque sur la démographie palestinienne horizon 2010. Je suis de Marseille, je n'y aurais jamais pensé. On peut y ajouter la diaspora palestinienne, dont une partie a fait fortune dans des pays occidentaux. Et si finalement le problème de demain n'était pas le problème palestinien, mais le problème d'Israël?
Alors bonjour Daniel et merci à vous et à toute votre équipe. Alors je ne suis ni antisémite ni anti-juif. Les religions m'indiffèrent complètement, sauf si l'on massacre, on exploite, on colonise en brandissant la Bible, le Coran ou la Torah. Soit clair, je suis laïque. Que faire, modeste citoyenne, révulsée par les sévices de toutes sortes infligés aux Palestiniens et la passivité de la communauté internationale, quand ce n'est pas la complicité? Certes, actuellement, j'achète des huiles d'olive et des amandes palestiniennes chez les artisans du monde, quand Israël daigne laisser sortir les produits, et tant qu'il restera des arbres debout, n'est-ce pas? Bon, évitez à tout prix d'acheter des produits qui indirectement vont financer le mur, les colonies, les massacres, cette armée surpuissante, facile pour les fruits et légumes. Ça devient un peu plus compliqué pour l'électroménager, ex-français, je ne citerai pas la marque, ou les médicaments génériques où Israël se taille une part de choix. Nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud. À l'époque, il n'était pas interdit d'en parler. Alors, bon, au revoir, bon courage, je m'arrange toujours pour écouter la radio entre 17h et 18h, sur France Inter, évidemment. Allez, au revoir.
Monsieur Mermet, je ne peux pas vous donner mes coordonnées, mais je peux vous dire que j'ai un ami depuis de longues années qui travaille au gouvernement américain, que j'ai vu récemment, cet ami, à Paris. Il voyage au Moyen-Orient depuis plusieurs 15-20 ans, connaît parfaitement tout ce qui se passe, connaît très bien, a rencontré M. Arafat, c'était pas sa tasse de thé, mais enfin il a rencontré aussi tous les autres, c'est pareil. Le plan américain est très simple, c'est d'expulser petit à petit tous les Palestiniens, c'est-à-dire laisser les Israéliens expulser les Palestiniens, vers la Jordanie, l'Égypte, le Liban, la Syrie, et laisser le territoire après pour Israël. Ceci est possible parce que, et c'est du reste la raison que l'Irak. Il y a une grosse Irak pour mettre un gouvernement neutre. Voilà le topo, voilà ce que l'on prépare. bon, à plus ou moins courte ou longue échéance, mais on le voit se faire en ce moment. Cette information, je vous dis, est secrète. Je ne donnerai pas mon nom. Je n'ai pas envie de finir comme l'anglais ou ainsi de suite avec ces histoires. C'est quand même grave.
Monique de Nice. Je termine la lecture du livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Ton émission a créé un tumulte dans ma tête. L'extermination des Juifs en si peu de temps. L'extermination des Palestiniens depuis si longtemps. La pensée d'Einstein est toujours vraie et actuelle. Le monde n'est pas si difficile à vivre à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci.
Bonjour, je m'appelle Cathy. J'ai 3 enfants. Mon mari travaille et gagne 913 euros. Et on se bat pour nos enfants. On est le 17, il me reste 6 euros. Bientôt, c'est les vacances. Comme d'habitude, à la Toussaint, on va galérer. On entendra à la télé qu'il y a des bouchons et qu'il fait beau dans le sud. Comme d'habitude, il faudra trouver un petit boulot mal payé pour finir le mois. Comme chaque année, il faudra déjà penser à Noël. Comme toujours, il faudra serrer très fort la ceinture les 3 premières semaines de décembre pour vivre un joyeux Noël. Comme toujours, il y aura des bouchons et il fera beau au sport d'hiver. C'est ça aussi la misère. Excusez-moi, mais je suis bouleversée. Et je voudrais dire que on en a marre, quoi, qu'un jour, ça va péter. Et ce jour-là, ça fera très 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 mal. Au revoir.
On a été un peu retourné hein, par le message de Cathy, et je suis sûr que vous aussi. Elle nous a donné un numéro de téléphone, donc une adresse, et si vous voulez lui écrire, vous pouvez le faire en vous adressant directement à nous, là-bas si j'y suis. Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, France Inter, 116, avenue du Président, Kennedy, attendez, je me remets. France Inter, là-bas si j'y suis, 116, avenue du Président Kennedy, 75-016, Paris. Surtout sur l'enveloppe, vous précisez, pour Cathy. On continue les messages, 01-56-40-37-37.
Je téléphone pour réagir suite au décès de Léon Schwarzenberg. Léon était venu dans les Vosges en 98 pour faire des parrainages républicains pour les sans-papiers. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de continuer la lutte. Et à ce sujet, dans les Vosges, il y a une famille albanaise qui risque d'être expulsée, une femme et ses 2 enfants. Donc le combat continue et c'est le plus grand meilleur moyen de continuer la vie de Léon Schwarzenberg. Voilà, merci, au revoir, c'est Eric dans les Vosges.
Message reçu. Pour les oiseaux, le ciel n'est pas vide. Il est plein d'espace.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, là-bas si j'y suis, Israël, au pied du mur.
Flight number 2, arriving from Israel.
Notre voix, c'est le jihad. Notre désir le plus extrême, c'est mourir sur la voie de Dieu. Les slogans du Hamas, c'est juste les slogans du Hamas. Les petites filles de 10 ans avec la photo de son père qui est mort. Le slogan du Hamas.
C'est difficile de faire la paix maintenant, quoi. Hein?
Ici, cette terre, c'est la nôtre. Depuis le nord, le Liban, jusqu'à Rafah, les frontières avec l'Égypte. De la Jordanie jusqu'à la mer Méditerranée. Jamais oublié ça. Te prendre, te chasse de la maison et tue tes enfants. C'est quoi ta réaction? Tu vas pardonner? Tu vas lui dire oui, c'est bien?
Une régression, ce qu'on entend là, c'est une régression terrible, si vous vous souvenez d'Oslo, si vous vous souvenez de 93. C'est une régression terrible. Celui qui dit c'est une régression terrible, c'est Ilan Halevi. Ilan Halevi qui juge les attentats suicides comme immoraux et politiquement nuisible. Nous sommes tous d'accord avec lui, sauf qu'il est, et il est proche de l'autorité palestinienne. Il est même vice-ministre adjoint des affaires étrangères dans le gouvernement démissionnaire de Mahmoud Abbas. Il est à la fois français, palestinien, juif. C'est un proche d'Arafat depuis longtemps. Et on va passer cette heure avec lui. Alors c'est un parti pris, évidemment, que de donner la parole pour s'expliquer, pour s'exprimer à un homme qui est impliqué avec l'autorité palestinienne, mais je pense que c'est un moyen d'éclairer le débat et d'essayer de comprendre un point de vue palestinien. Ilan Halevi a un parcours assez étonnant. Il est né à Lyon dans la clandestinité en 1943. Il a été musicien de jazz. Il a été journaliste à la radio malienne. Il a séjourné en Algérie. Il a été correspondant du journal Libération en 1974. Puis ensuite, il a commencé à travailler avec l'OLP, représentant de l'OLP auprès de la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme en 1983. Il a participé en 1991 à la conférence de Madrid. En 1996, il s'est installé à Ramallah. Et puis c'est là que nous le trouvons dans son bureau. C'est pas très très luxueux son bureau, mais enfin voilà, c'est le vice-ministre adjoint des affaires étrangères du gouvernement de Mahmoud Abbas, démissionnaire, qui nous parle. C'est pas en tant que tel qui nous parle, c'est aussi en tant que qu'un homme engagé, qu'un homme cultivé et aussi un homme politique. Ilan Halevi. On assiste quand même à Gaza, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, à une hamasisation de la société. Hein. C'est-à-dire que le Hamas à Gaza a de plus en plus de succès dans la population. Est-ce que cet enfermement de la Cisjordanie ne risque pas de radicaliser le camp palestinien, disons le mot?
Oui, il y a deux éléments de réponse à cette question. La première est quand même que il y a des données sociologiques avec des incidences culturelles qui distinguent Gaza de la Cisjordanie, et c'est essentiellement la proportion des réfugiés par rapport à la population dans son ensemble. Les réfugiés sont 80% de la population à Gaza, et ils vivent dans des camps. Les réfugiés sont environ la moitié de la population en Cisjordanie, mais la majorité d'entre eux ne vivent plus dans des camps. Ils sont intégrés dans le tissu urbain. Donc il y a une différence sociologique qui se traduit par des différences de cartes politiques. Mais par ailleurs, il faut aussi voir que le succès ou la popularité du Hamas dans l'opinion populaire palestinienne, en Cisjordanie pas beaucoup moins qu'à Gaza, n'est pas lié à leur programme islamiste de société. Elle est liée à leur activité contre l'occupation. Leur activité militaire et politique, mais leur discours aussi. Mais le Hamas est un mouvement qui s'est placé d'emblée, dès sa fondation, sur le terrain de la lutte nationale, de la lutte contre l'occupation. Son nom même, c'est le mouvement de la résistance islamique. Il ne s'agit pas de la résistance islamique à la laïcité ou à la corruption des morts, il s'agit de la résistance islamique à l'occupation israélienne. Dans les sondages d'opinion, la stratégie des opérations, suicides ou pas, mais contre des civils israéliens, et pas seulement contre des militaires ou des colons armés dans les territoires occupés, a reçu une approbation majoritaire de l'opinion palestinienne. Les mêmes qui soutiennent ces opérations ne soutiennent pas du tout le programme social et culturel du Hamas ou leur projet de société. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens palestiniens qui soutiennent totalement les opérations du Hamas sans avoir la moindre sympathie pour leur programme politique et culturel. Donc je crois qu'il faut se méfier de d'utiliser le concept d'islamisation de la société de façon un peu rapide. L'opinion se détermine par rapport à la pratique de ces organisations. Ces organisations apparaissent à l'opinion comme celles qui se battent le plus radicalement contre l'occupant israélien.
Je voudrais qu'on parle, là vous avez évoqué rapidement les attentats suicides, vous savez évidemment que c'est le point le plus sensible dans l'opinion internationale. Quelle est votre analyse et votre position là-dessus ?
Écoutez, je crois, moi j'ai parlé d'attentat suicide parce qu'on en parle de cette façon-là, mais je pense que ce qui est problème, c'est les attentats contre des civils. Les attentats contre les civils sont des crimes de guerre, même quand ils sont commis au nom d'une cause juste. Même dans le, et on sait que, je veux dire, aujourd'hui, il ne fait aucun doute que d'après les critères juridiques admis par la communauté internationale aujourd'hui, en ce 21e siècle, alors, si on applique rétroactivement, ce qui ne se fait pas avec les lois, les critères d'aujourd'hui, Hiroshima est un crime contre l'humanité. Ainsi que les bombardements alliés sur Dresde et Leipzig et les villes allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'empêche pas, ce qui ne veut pas dire qu'on peut renvoyer les nazis et les démocraties dos à dos. Fondamentalement, moi je pense que le combat des alliés contre l'Axe était juste, ça ne les a pas empêchés de commettre des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité. Bon. Donc pour moi, les attaques contre des civils sont des crimes de guerre. Et les massacres de civils sont des crimes contre l'humanité. Même s'ils sont commis au nom des idéaux les plus nobles et dans le cadre d'une lutte qui reste fondamentalement une lutte de libération. Maintenant, que les attentats contre des civils soient suicidaires ou pas, c'est une autre question. À mon avis, un attentat suicide contre un tank n'est pas une action terroriste. Un attentat suicide contre un tank est une action, est un acte de guerre. Et selon tous les critères, c'est un acte de guerre d'autant plus héroïque que celui qui le commet y perd la vie consciemment. Puisque je parle à un média français, je rappellerai que les gens de ma génération qui ont fait l'école primaire en France ont été élevés dans l'admiration du petit Barat, soldat révolutionnaire, mort en criant « Vive la France !» pour ne pas rendre son drapeau au chouan, et que c'est le modèle parfait de l'héroïsme. Je rappellerai aussi que le premier combattant suicidaire de l'histoire écrite, c'est Samson, le héros Samson dans la Bible, qui fait tomber le temple des Philistins sur les Philistins et lui-même en disant en hébreu « Tamut nafshi im plishtim » que mon âme meurt avec les Philistins. Et c'est également l'appel « Shimshon Agibor » en hébreu. Samson, le héros, c'est l'héroïsme même. Donc, le caractère suicidaire d'une opération, c'est pas ça qui fait problème. Le caractère suicidaire d'une opération, c'est un problème culturel pour la société dont le suicidaire est issu. Et c'est un problème grave. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on doit pouvoir, lutter pour la vie et en gardant la vie. Bon. Mais le problème n'est pas le problème du caractère suicidaire des opérations. Le problème, c'est le problème du caractère terroriste de certaines opérations. Donc, premièrement, la question du suicide est une autre question. Deuxièmement, il faut faire une distinction claire entre des actes de résistance contre une occupation militaire illégale et des milices armées, qui est une lutte légitime, reconnue par le droit international, et les actes dirigés contre des civils, où qu'ils soient, qui sont des actes terroristes et des crimes de guerre. Nous, en tant qu'autorité palestinienne, nous sommes engagés dans deux démarches qui, depuis plusieurs années, s'ajoutent l'une à l'autre. La première démarche, c'est le refus du terrorisme. L'OLP a pris position dès 1985 officiellement contre le terrorisme, défini comme la stratégie consistant à prendre des civils pour cibles. Bon. Nous sommes contre le terrorisme par principe. Et nous pensons que le terrorisme est à la fois immoral, illégal et politiquement nuisible. Nous sommes par ailleurs engagés, depuis 1993, dans un processus de paix et de négociation que les Israéliens essaient de réduire à néant, mais que dont nous réclamons la poursuite, qui implique un cessez-le-feu, qui implique non pas la délégitimation de la résistance armée, mais un choix politique de la suspendre pour avancer dans la négociation. Ça n'est pas faire l'amalgame. L'amalgame entre le terrorisme et la résistance est nuisible, parce que l'amalgame, la volonté israélienne, qui est celle des occupants et des oppresseurs en général au cours de l'histoire, de définir comme terrorisme toute résistance, entretient de l'autre côté l'amalgame populaire palestinien en vigueur,
qui identifie comme résistance toute forme de violence, y compris les attentats terroristes. Donc nous, on est intéressés à la fois à l'éradication du terrorisme et à l'arrêt de la lutte armée, mais sans pour autant accepter l'amalgame.
Pendant que nous parlons, le mur est en construction. On entend les furieuses pelleteuses non loin d'où nous sommes, des bureaux de l'OLP, l'autorité palestinienne, plus exactement à Ramallah, avec Ilana Levy, donc diplomate palestinien. Alors ici, Ilana Levy, on est dans les bureaux de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce que l'autorité palestinienne peut et fait contre ces attentats visant des populations civiles?
Maintenant, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire? On nous reproche de ne pas avoir réussi, alors que tous nos appareils de sécurité ont été détruits, nos policiers mitraillés, nos prisons bombardées, nos tribunaux démolis, nos laboratoires d'analyse criminologique brûlés, tous les appareils de dissuasion et de coercion et de répression qui étaient aux mains de l'autorité palestinienne ont été détruits physiquement par les Israéliens au cours des trois dernières années, et de plus, ce qui reste de forces sécurité redevenues embryonnaires n'a aucune mobilité sur le territoire à cause du bouclage total. Bon. Donc, côté répression, on n'en a pas les moyens. On n'a pas non plus la légitimité politique, parce que la seule façon d'isoler les terroristes, c'est de les isoler dans l'opinion publique palestinienne. Tant que l'opinion publique palestinienne est victime de l'incitation permanente des pratiques israéliennes contre l'idée même de la paix, la popularité des actions du Hamas et de ses groupes est assurée. Et il n'y a pas non plus de raison qu'ils s'arrêtent vraiment tant que l'opinion les soutient. Bon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'on peut rien faire si les Israéliens continuent à nous empêcher de faire, à la fois en nous empêchant de reconstituer nos appareils de sécurité, et en continuant, par leurs agressions, à inciter l'opinion publique palestinienne à ne pas nous obéir et à soutenir de sa ferveur patriotique ceux qui commettent des opérations armées, qu'elles soient terroristes ou non. Ce qu'on peut faire quand même, et on l'a fait, et ça, c'est considérable, c'est la trêve. On a amené 51 jours d'arrêt des opérations, pendant lesquels les Israéliens ont continué à assassiner non seulement les dirigeants de ces groupes, mais surtout ceux qui étaient les partisans de la trêve, de façon à la faire capoter, pour que le processus n'avance pas et que la feuille de route ne se mette pas en route et qu'on n'en arrive pas au chapitre 2, arrêt de la colonisation. Ils ont mis chapitre 1, arrêt du terrorisme. Donc ils veulent pas que ça s'arrête. Parce que si on passe le chapitre 1, on passe au chapitre 2. Le chapitre 2, c'est à eux. Comme ils ne veulent pas y arriver. La trêve, il faut bien voir quand même. Nulle part dans le monde, même les États constitués, démocratiques, les plus avancés, n'ont réussi à juguler le problème du terrorisme. Ni les Espagnols, ni les Britanniques, ni aucun autre pays, ni les Israéliens avec toute leur puissance militaire pendant les 35 ans où ils ont occupé directement ces territoires, et même maintenant où ils ont réoccupé les villes et où ils tuent des gens tous les jours, et il y a quand même des attentats. Les seuls endroits où on a vu les tactiques et stratégies terroristes de groupes fondées sur des revendications collectives s'arrêter, c'est là où il y a eu des avancées politiques. Là où on a pu substituer des processus politiques qui ont isolé les jusqu'au boutistes de l'action armée. Ça, on a pu le faire. On n'a pas pu tenir parce que les Israéliens ont tout fait en multipliant les provocations, les assassinats, les confiscations de terres, les arrestations, les incursions, en continuant à décrédibiliser. C'est ce que Mahmoud Abbas, notre premier ministre sortant, n'a pas arrêté de réclamer qu'on lui donne un petit espace pour être crédible.
Et à présent, les auditeurs ont la parole sur le répondeur vocal de la station 02 55 651 22.
Erev Tov, Shavua Tov, Khatima Tova et Shana Tova à vous tous, amis auditeurs. Merci de suivre cette nouvelle édition des Auditeurs ont la parole. Je vous disais donc, Khatima et Shana Tova à vous tous. L'année a malheureusement bien mal commencé. Ainsi en témoigne l'attentat de Haïfa qui a fait 19 morts et 50 blessés. Monsieur Benamou réagit à notre article qui décrit cet attentat. Monsieur Benamou nous écrit « L'utilité de la clôture est incontestable. Sharon s'y était opposé et après un zigzag digne du comportement de Barack auquel il a succédé, il s'est mis à approuver sa construction. Ce prétendu chef de gouvernement, sans projet organisé pour mettre fin à la terreur, à l'exception de ses fanfaronnades, a failli à ses obligations de défendre la nation juive. Il ne mérite pas l'honneur qui lui a été fait d'être élu. Cette clôture est indispensable. » et doit s'accompagner du transfert des Arabes israéliens qui sont la troisième colonne qui aide le terrorisme islamique à s'en prendre à des familles innocentes, précisément à Haïfa, là où réside le maire Travaïs qui, à l'occasion de sa tentative pour se faire élire, avait pourtant souhaité un accord avec les assassins des Juifs. C'est la gifle qu'il mérite pour avoir tenté de pactiser avec l'ennemi. Quel dommage pour les familles frappées, notre cœur partage leur malheur. À bientôt.
Arut Sheva, Khadashot.
Voilà, Arut Sheva, c'est la radio des colons francophones en Israël. Et vous voyez qu'on n'est pas les seuls à avoir un répondeur téléphonique. Là, des auditeurs appellent cette radio. Et là, voilà, c'est un message demande et qui exige le transfert. Alors, c'est pas seulement le transfert des Palestiniens. Ça, c'est une majorité aujourd'hui d'Israéliens qui sont favorables au transfert des Palestiniens des territoires. Mais là, c'est quelqu'un qui demande également le transfert des Arabes israéliens, c'est-à-dire des citoyens israéliens à part entière en principe, et ça c'est un pourcentage qui varie mais qui est au moins d'un tiers aujourd'hui des Israéliens qui sont favorables à un tel transfert. C'est dire, comme on disait en commençant, à quel point la situation s'est dégradée, mais c'est même plus que ça. Voilà pourquoi on écoute les explications, les éclairages de d'Ilan Halevi du côté qui est le sien, c'est-à-dire le côté palestinien.
Opération Kadima. Les avis pour réussir votre aliyah et vous intégrer en Israël. www.elavi.org.
Selon vous, Ilan Halevi, que veulent les Israéliens? Que veut l'actuel gouvernement israélien? C'est deux questions différentes. Hein, que veut le peuple israélien et que veut le gouvernement israélien?
Je vais commencer par le gouvernement parce que c'est plus facile. Le gouvernement israélien veut qu'il n'y ait pas d'interlocuteur du côté palestinien. Veut la destruction de l'interlocuteur palestinien. L'élimination de l'interlocuteur palestinien. Parce que s'il n'y a plus d'interlocuteur, il n'y aura plus de pression internationale. Ni pour évacuer, ni pour négocier, ni pour démanteler des colonies. Ni même pour arrêter la colonisation. Et s'il n'y a plus d'interlocuteur, ça veut dire qu'il n'y a plus que des terroristes en face. Et là, à ce moment-là, le gouvernement israélien actuel se trouve en phase idéologique avec l'administration américaine actuelle, qui a également fondé toute sa politique sur une mythification du concept de terrorisme à l'échelle mondiale, et qui veut engager le monde entier dans une nouvelle guerre chaude et froide à la fois, contre un ennemi qui est cette fois-ci fantomatique, virtuel, invisible. C'est beaucoup plus commode que l'Empire soviétique d'avant, qui avait quand même une petite vie à lui. Là, il y a un ennemi à la mesure de ses concepteurs. Et c'est d'autant plus facile que le noyau de l'ennemi, Al-Qaïda, est une organisation mise sur pied par les Américains dans la guerre contre les Soviétiques en Afghanistan il y a 20 ans, dont on veut nous faire croire qu'elle est entrée en mutinerie. Mais dans ce cadre-là, le gouvernement israélien se voit très bien avant-garde de la lutte de l'Occident judéo-chrétien contre le fanatisme islamique, comme il était hier avant-garde du monde libre contre l'Empire soviétique, et avant-hier, selon les termes de Herzl lui-même, avant-garde de la civilisation européenne contre la barbarie asiatique.
Ça, c'est la guerre des civilisations.
C'est la guerre des civilisations, c'est bien celle autour de laquelle Bush et Ben Laden tango ensemble. Alors, je crois que le gouvernement israélien actuel ne veut pas autre chose que ça.
Ce qui passe, accessoirement, par le transfert des Palestiniens.
Oui, mais là encore, pas nécessairement. Le transfert est une idée qui existe dans le ventre mou du mouvement travailliste, c'est-à-dire de la gauche, de l'échiquier, et à l'extrême droite. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans le centre gauche comme dans le centre droit qui pensent que c'est pas réaliste le transfert et que donc il faut envisager des mesures de contrôle, des encouragements à l'immigration, certes, des pressions économiques, ça quand même, la population palestinienne, un tiers de la population de la Cisjordanie qui était là en 67 n'est plus là. Et il y a eu un exode qui ressemble quand même furieusement à un début de transfert entre 67 et 69. Mais un transfert massif, brutal, des camions, des avions, des trains, etc., ça c'est dans l'imaginaire colonialo-belliciste de certaines franges. C'est pas nécessairement central. Tandis que la guerre, oui, la guerre c'est central. La guerre est le besoin de la guerre pour assurer le soutien occidental, l'immunité diplomatique, le soutien économique, le financement de la machine de guerre et donc de la machine bureaucratique et politique. Tout ça, oui, ça c'est l'objet d'un large consensus et pas seulement de franges.
Madame Birou qui nous écrit une femme terroriste de plus. La culture de sécurité est essentielle pour limiter encore plus les attentats de ce genre, mais aussi pour nous éloigner le plus possible de cet ennemi nuisible qui ne recherche que notre mort. Sinon, nous voyons bien que ce n'est pas la pauvreté ni la condition sociale qui détermine forcément la volonté de ces fous de Dieu à se donner la mort en apportant dans leur tourbillon de folie la vie de plusieurs innocents. Ils ne sont pas malheureux, ils se veulent malheureux. Ils veulent qu'on pleure sur eux, qu'on les plaigne. Sniff, 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 nous écrit Madame Houri. À cause de l'existence du peuple juif, ils sont obligés de se faire sauter et de semer la mort autour d'eux. Finalement, c'est pas de leur faute. C'était ironique, bien sûr. À bientôt.
C'est-à-dire, moi je pense que les Israéliens sont prisonniers à la fois de leur peur et de leur force. La combinaison de leur peur et du sentiment de leur force est très mauvaise conseillère. Elle inspire la foi aveugle dans à la fois la nécessité de leur propre violence, ça c'est la peur, qui est productrice d'agressivité, et puis le sentiment de leur force qui est la certitude que ça va marcher. Parce qu'ils sont les plus forts.
C'est ça qu'ils ont en commun avec l'Amérique de George Bush.
C'est ça qu'ils ont en commun avec l'Amérique de George Bush. Encore que il faudrait voir si la peur est aussi profonde chez les Américains que chez les Israéliens. Je crois qu'elle ne l'est pas. Je crois que les Israéliens, lorsqu'il y a eu l'attaque contre le World Trade Center, ont ouvertement jubilé en disant « Ah, maintenant les Américains vont voir ce que c'est que d'avoir peur ». Mais tout si traumatique qu'ait pu être l'attentat contre le Trade Center, je ne sais pas dans quelle mesure. Mais il y a une peur plus diffuse dans la société américaine qui s'identifie à la peur des nantis à l'égard des pauvres, qui est leur rapport au reste du monde, qui est le rapport des habitants des villes au SDF dans les villes américaines. Les pauvres sont dangereux.
Des populations dangereuses.
Ce sont des populations dangereuses, donc il y a, c'est vrai, mais je crois que c'est un niveau un peu plus sublimé dans la situation américaine. En tout cas, c'est chez les Israéliens, cette combinaison de la peur et de l'ivresse de la force produit cet aveuglement. Je dois dire que dans l'opinion palestinienne, il y a le même paradoxe. Encore que la proportion des Palestiniens qui soutiennent la violence aveugle contre les civils de l'autre bord soit en régression. Les gens qui soutenaient les opérations contre les civils avant la deuxième intifada étaient dans les sondages aux environs de 30%. Au bout d'un an et demi d'intifada, c'était monté à 75%. C'est redescendu aujourd'hui à un peu moins de 50%. Donc il y a régression du soutien au terrorisme aveugle contre l'autre bord dans l'opinion palestinienne. Et ça, c'est dû certainement au fait que dans l'opinion palestinienne, ce soutien se heurte au discours de l'autorité. Le pouvoir ne tient pas le même discours. Le pouvoir tient le discours du cessez-le-feu. Et non seulement de l'arrêt des attentats contre des civils. Alors qu'en Israël, le bellicisme de la rue et se renvoie la balle avec le discours étatique. L'État répercute le même discours, le légitime, le renvoie à la rue et ainsi de suite, sans fin. Mais quand même, au niveau des deux opinions, il y a ce paradoxe, et je crois, et c'est assez grave pour moi de constater, parce que je crois pas du tout que ce conflit soit susceptible de représentation symétrique. Il y a un occupant, il y a un occupé, il y a un agresseur, il y a un agressé. C'est pas une querelle entre cousins pour un héritage lointain. Et donc, je trouve inquiétant et régressif qu'il y ait des éléments de symétrie dans la psychologie des deux sociétés. Et je crois que ça ne peut s'expliquer que vraiment par la déshumanisation de l'autre, qui est un fait inscrit en Israël à la fois dans l'expérience et dans les discours produits, en Palestine, surtout par l'expérience. Et par les discours produits par les Israéliens, pas par les discours produits dans la société palestinienne. Mais encore qu'il faudrait nuancer, vu l'existence de courants comme le Hamas et d'autres, qui tiennent un langage parfaitement exclusif et de négation sur l'humanité de l'autre. Il y a, moi, je suis parvenu à un énoncé neutre, applicable aux deux parties, qui explique cette psychologie. Et parce que chaque parti peut se reconnaître dans cet énoncé qui dit « Nous sommes un peuple noble avec des traditions, une morale, une histoire, une profondeur culturelle et historique. Donc avec nous, la violence, l'intimidation, le terrorisme ne marcheront jamais. Nous mourrons jusqu'au dernier, nous ne céderons pas. Mais eux, par contre, eux ne sont pas un vrai peuple comme nous. Eux, c'est un conglomérat d'intérêts conjoncturels. Il suffit de leur faire payer très cher leur association. Ils renonceront. Alors, dans l'enfermement d'une partie majoritaire de l'opinion publique israélienne et une partie encore trop importante de l'opinion publique palestinienne, dans cette mécanique négatrice, on est dans l'impasse. Il est clair que seule une intervention décisive de la communauté internationale peut rompre le cycle de la violence. Dans l'affrontement bilatéral, il y a trop de déséquilibre pour permettre un quelconque compromis.
Ça, c'est un appel aux Nations Unies.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais avant même, vous savez, les Nations Unies, leur rôle est bien, on le voit en Irak, est bien subalterne dans la conduite des affaires du monde. Et moi, je suis un très très ferme partisan de l'ONU, avec tous ses défauts et la nécessité d'une réforme de son système, d'une réforme du Conseil de sécurité, etc., de redonner des vrais pouvoirs à l'Assemblée générale, de cesser la tyrannie des 5 membres permanents, avec leur AU et abus de veto, en dépit des lourdeurs bureaucratiques, des impuissances. L'ONU reste le seul embryon d'une alternative à la loi de la jungle. Ce sont les puissants qui ont intérêt à la loi de la jungle.
Appel à l'ONU, merci à Ilan Halevi, reporter aujourd'hui d'Ila Teibi à Nanterre et en Israël, Guy Van Kiel, technique Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, répondeur Christophe Imbert, le numéro 0156 40 37 37, assistante Anne de Giaferi, musique Koy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. On se retrouve lundi à 17h pour la Basse-Suisse. Bonne fin de semaine à tous, le journal Delphine Simon. Salut.